Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Mathilde Munoz.
Dans votre journal de géopolitique européenne, vous allez nous parler de la perfide Albion.
Et en ce cas précis, Mathilde, notre culture générale nous tend la perche. Dis, quand reviendras-tu? Au moins le sais-tu? Je t'aime moi non plus, ou le mariage de la carpe et du goéland. Tout est dit dans un ouvrage, celui du professeur émérite Robert Frank, au titre évocateur, être ou ne pas être européen, soit la question des Britanniques et de l'Europe du XVIIe siècle jusqu'au Brexit. Alors, le Royaume-Uni serait-il en Europe sans y toucher, Robert Frank?
Sans y toucher, tout en y touchant, sans forcément regarder toujours en face l'Europe, mais sans jamais la perdre de vue, si vous voulez. On pourrait dire que depuis le XVIIe siècle, le point d'horizon de la Grande-Bretagne, et des Anglais en particulier, c'est le monde. C'est plus l'Europe. Hein.
Marins et commerçants, voilà, c'est normal.
Ça. Parce que, si vous voulez, l'Europe, ce sont les arrières. Il y a le monde, c'est la perspective, on regarde devant, et derrière, il y a l'Europe. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un envahisseur possible. Et pour être sûr qu'il n'y ait pas d'envahisseur possible, on ne veut plus de 1066, hein, 1066, hein, bataille de Hastings.
Guillaume le Conquérant, voilà. Hastings, contre les Angles.
Voilà. Et les îles britanniques n'ont jamais été envahies depuis. Hein. Il y a eu César, puis Guillaume le Conquérant, plus jamais ça. Pendant la guerre de Cent Ans, les Anglais regardaient vers l'Europe, mais ce n'est plus le cas à partir du XVIIe siècle, donc c'est le monde qui est le point d'horizon, mais il faut assurer les arrières. Donc il y a cette fameuse pratique d'abord de l'équilibre des puissances, faire en sorte que sur le continent, il n'y ait pas de puissance dominante pour qu'il n'y ait pas de risque d'invasion des îles britanniques par un dominant. Louis XIV, Napoléon, Guillaume II...
Mais attention à Robert Frank, l'Angleterre est très présente de 1815, le comte de Vienne, jusqu'en 1860.
C'est vrai qu'au congrès de Vienne, avec Talleyrand, avec Metternich, Castlereagh, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, joue un rôle primordial dans ce qu'on va appeler la mise en place du concert européen. C'est-à-dire, c'est pas seulement l'équilibre européen comme au XVIIIe siècle, c'est on va se concerter d'une façon permanente pour qu'il y ait cet équilibre européen et qu'il y ait la paix. C'est presque une organisation informelle multilatérale, si vous voulez. Hein. Pour l'indépendance de la Grèce contre les Turcs, les Britanniques jouent un rôle.
Lord Byron.
Quand les Belges se révoltent contre les Hollandais pour sortir du royaume des Pays-Bas qui a été mis en place par le Congrès de Vienne, alors là, les Britanniques sont vraiment en pointe. Pourquoi? Parce que pour eux, il est important que ce nouveau pays, la Belgique, soit neutre et que Anvers, qui est juste en face de Londres...
Le commerce
et la sécurité. Anvers est en face de Londres, qui n'est pas de grande puissance mettant la main sur Anvers. Donc, si la Belgique est indépendante, il faut qu'elle soit neutre. Donc voilà, l'Europe est toujours nécessaire, même si elle est secondaire, elle est nécessaire pour la sécurité des Britanniques.
Et puis, nos amis britanniques, dans l'alliance avec la France contre la Russie, inventent un concept de géopolitique qui sera repris, c'est le grand jeu.
Le grand jeu, au moment de la guerre de Crimée. Et là aussi, ça montre bien que les affaires européennes peuvent être importantes pour la sécurité britannique, parce que après la France de Napoléon, c'est la Russie qui devient dangereuse. Au moment où le Royaume-Uni a la route des Indes à sécuriser, eh bien, si la Russie va vers les mers chaudes et bloque cette route des Indes, elle devient dangereuse, d'où cette alliance avec la France, qui est quand même inédite. Hein.
Pour vous, le Royaume-Uni s'est toujours empêché la dominante.
Elle ne veut pas de puissance dominante, d'une part. D'autre part, elle se sent assez européenne pour veiller aux affaires européennes et relativement à part pour ne pas s'engager trop dans l'Europe. Et le Brexit est sûrement une de ses péripéties, mais peut-être une péripétie seulement.
En réalité, c'est un doux mélange entre le marin, le diplomate et le commerçant, l'anglais.
Tout à fait, il y a ce mélange. Avec la construction européenne, c'est un peu différent, parce que là, il n'y a pas seulement une question de sécurité, et là, on revient au marin et au commerce, il y a une question d'intérêt. Et s'il y a un va-et-vient du Royaume-Uni par rapport à l'Union européenne, c'est que précisément, les Britanniques hésitent toujours entre leur intérêt, comme ils sont pragmatiques, ils veillent à leurs intérêts, et leur souveraineté. Et parfois, ces deux notions ne vont pas dans le même sens. Parfois, par intérêt, il faut accepter un certain abandon de souveraineté. D'où ce débat extrêmement violent qu'il y a au Royaume-Uni. Il n'a jamais été si violent. Et vous voyez, le paradoxe, c'est que le Royaume-Uni, ça fait 3 siècles qu'il existe. Et effectivement, les Brexiteurs risquent de casser le Royaume-Uni. Il n'est pas sûr qu'ils cassent l'Union européenne.
Être ou ne pas être européen, les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle jusqu'au Brexit par Robert Frank, c'est édité chez Belin.
Et on retrouvera ces références sur franceinter.fr.